Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Quand on entend parler de basse température, on pense souvent à un hiver rude, où le thermomètre descend en dessous des 0 degrés. On pense aussi au cercle arctique, à ces températures de moins 20, voire moins 30 degrés, qu'il y a dans ces contrées lointaines, dont l'existence nous est presque comme mythologique. Pourtant, si vous parlez à une physicienne ou à un physicien de basse température, vous vous rendrez vite compte que vous ne parlez pas le même langage. Le point de référence en physique est le fameux zéro absolu, fixé à moins 273,15 degrés Celsius. C'est un état dans lequel les atomes sont supposément immobiles, selon les théories de la physique classique. Une hypothèse que les théories quantiques de plus en plus présentes dans la recherche contestent avec véhémence. Ce zéro absolu n'a pourtant rien de naturel. On ne le retrouve pas dans la nature, ni même dans l'espace, où les températures dans notre système solaire peuvent descendre à moins 120 degrés, si on n'est pas exposé au soleil. Même si l'univers se dilatait infiniment, continuant éternellement son refroidissement, le zéro absolu ne pourrait être atteint. C'est en tout cas ce qu'explique le physicien Pierre Auger dans ce numéro des Grandes Avenues de la Science Moderne, présenté par Georges Svetlovski et consacré aux basses températures. L'occasion d'un tour d'horizon des enjeux autour des basses températures en physique, dont beaucoup restent encore en suspens. Une émission diffusée pour la première fois le 3 juin 1970.
Le professeur Auger va aborder aujourd'hui pour vous le premier domaine des températures, il s'agit des basses températures.
La chaleur, le froid, ont été depuis toujours une des caractéristiques essentielles du milieu ambiant au sein duquel l'homme doit vivre. Le feu était un des éléments d'Aristote d'ailleurs, et le froid était considéré comme apparenté à la mort. Les physiciens ont reconnu très rapidement qu'il n'y avait pas, à proprement parler, de chaud ou de froid, comme le croyaient les anciens, mais qu'il y avait seulement des différences de température, et que ces termes de chaud et de froid étaient relatifs et n'étaient pas absolus. On pouvait donc croire, comme les températures peuvent être élevées de plus en plus au fur et à mesure que l'on perfectionne les appareils qui chauffent, que ces températures pouvaient aussi être abaissées indéfiniment. On sait qu'on peut monter les températures à des milliers de degrés, des dizaines de milliers de degrés, des millions de degrés. On pouvait penser qu'elle pouvait baisser aussi indéfiniment. Eh bien, c'est une des surprises que nous réservait la thermodynamique que d'avoir montré qu'il n'en est rien et que les températures ne peuvent pas être abaissées au-dessous d'une certaine valeur bien définie qu'on appelle le zéro absolu. Absolu parce que justement, on ne peut pas aller plus bas. Elle est située à 273 degrés centigrades au-dessous de la température de la glace fondante, c'est-à-dire le zéro du thermomètre, ordinaire. La découverte d'un absolu est toujours quelque chose d'extrêmement important, et même tout à fait exceptionnel en physique, et même en science. Par exemple, la vitesse de la lumière, qui joue un rôle si essentiel dans la théorie de relativité, ou en physique atomique, en cosmologie. L'absolu, représenté par le zéro de l'échelle dite thermodynamique, c'est-à-dire l'échelle Kelvin, l'échelle qui a son zéro à moins 273 degrés centigrades, se présente d'ailleurs de façon assez différente de l'absolu de la vitesse de la lumière. Si celle-ci, en effet, comme le zéro absolu, ne peut pas être atteint par nos efforts, on ne peut pas aller aussi vite que la lumière, comme on ne peut pas atteindre le zéro absolu. Au contraire, elle est directement et naturellement atteinte par le rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire la lumière elle-même, aussi par les neutrinos d'ailleurs. Donc voilà des grandeurs physiques, si vous voulez, des sortes d'objets qui vont directement à la vitesse de la lumière, alors que nous ne pouvons pas faire mouvoir de la matière à cette vitesse-là. C'est un absolu pour nous, pour nos mouvements, et c'est une valeur directement atteinte par certains objets physiques.
Mais professeur, pourtant très très loin, en dehors de toute galaxie, en dehors de tout rayonnement, ne peut-on pas imaginer un petit caillou, un petit grain de matière qui aurait cette température de zéro absolu ?
Évidemment, si un caillou, par exemple, un météorite de petite dimension, se trouve très éloigné, non seulement de nos étoiles, du Soleil, de nos étoiles, mais même de nos galaxies, ou se trouve loin de toutes les galaxies. Il y a des régions dans lesquelles il y a une absence presque complète de matière et de galaxies. On peut penser que là, règnerait le zéro absolu. Eh bien, il ne règne pas le zéro absolu. Il règne une température d'environ 3 degrés, 3 degrés absolus. Et cela correspond à une certaine quantité de photons, une certaine quantité de lumière, pas de lumière visible, mais d'ondes électromagnétiques, qui serait le restant de la radiation très puissante qui a existé au moment de la création de l'univers, si l'univers a été créé par une grande explosion. La dilatation de l'univers a refroidi cet ensemble, et à l'heure actuelle, il a la température de 3 degrés absolus. Et là aussi, on peut dire que même si l'univers se dilatait indéfiniment, il ne tomberait pas au vrai zéro absolu. Il y aurait toujours une température un peu supérieure. Si la vitesse de la lumière est la plus grande qui est possible, la vitesse la plus petite possible, c'est l'immobilité. Et alors, le zéro absolu correspondrait à une immobilité. Mais une immobilité pour tous les constituants de la matière, atomes et molécules. Alors, pourquoi ne peut-on pas atteindre ce zéro en arrêtant le mouvement thermique, en arrêtant les atomes et les molécules dans leur mouvement ? La difficulté, c'est que ce mouvement est entièrement désordonné et distribué absolument au hasard. Et c'est ça qui rend très difficile de les arrêter. Cette distribution est telle qu'aucun genre de mouvement n'est privilégié par rapport aux autres, aucune direction d'ensemble, qu'il s'agisse de déplacement, de rotation ou de vibration. Et alors, comme il n'y a pas de mouvement particulier, on ne peut pas arrêter ce mouvement particulier. Il faudrait arrêter tous les atomes dans leur mouvement spécial, et comme tous les mouvements sont au hasard, il faudrait disposer d'un autre, d'une autre série d'atomes qui viendraient chacun bloquer les atomes de la matière que l'on voudrait arrêter, et naturellement, ça, nous ne pouvons pas le faire. Il faudrait les arrêter individuellement sur leur trajectoire et sur leur vibration.
Mais alors, professeur, le froid, comment arrive-t-on à le faire, à le fabriquer ?
Eh bien, justement, pour refroidir un corps, pour enlever de l'énergie à ses mouvements, pour les calmer en quelque sorte, eh bien, on met un corps en communication avec un autre corps dans lequel le mouvement est plus faible, de façon à ce que les mouvements de l'un, qui est plus chaud, se communiquent au corps plus froid et par conséquent perdent de leur intensité. Comme on ne peut pas les arrêter individuellement, tout ce qu'on peut faire, c'est de les arrêter dans l'ensemble, en les mettant en communication avec un corps dans lequel, effectivement, le mouvement est moindre. Autrement dit, on ne peut faire refroidir un corps qu'en le mettant en contact avec un corps plus froid.
Mais il faut avoir le corps plus froid.
Ben alors, naturellement, le problème est simplement reporté. Mais cependant, nous verrons que cette possibilité, dont je viens de parler, a ouvert un champ d'action du plus haut intérêt pour les très basses températures. Parce que nous allons pouvoir séparer les mouvements les uns des autres. Reprenons notre gaz avec ses molécules en agitation. Elles viennent frapper les parois du vase qui les contiennent et rebondissent avec un échange d'énergie en moyenne. Alors, elles donnent de l'énergie à la paroi, elles en reprennent puisque la paroi est à la même température. Et ceci de façon équilibrée. Mais supposons que la paroi cède un peu au choc, c'est-à-dire chaque fois qu'une molécule la frappe, elle recule un peu devant les molécules. Alors, la molécule rebondit avec une énergie moindre puisque la paroi a reculé. Elle a donc communiqué une partie de son énergie à la paroi, elle a donc un mouvement moins grand. Et alors, de cette manière, en faisant reculer la paroi devant les molécules, on peut diminuer la vitesse des molécules qui rebondissent, donc les refroidir. On sait en effet qu'un gaz que l'on détend en augmentant le volume qu'il occupe, en augmentant son volume, c'est-à-dire en reculant les parois, ce gaz se refroidit, tous les rebonds sur la paroi en recul étant un peu diminués par rapport à la vitesse d'arrivée. Et voilà le principe de la machine de Claude pour la liquéfaction des gaz, par détente avec travail extérieur, travail qui résulte du recul de la paroi devant la pression du gaz. En réalité, on a commencé l'opération inverse, c'est-à-dire qu'on a d'abord commencé par rapprocher la paroi, accru la vitesse des rebonds et comprimé le gaz qui s'était chauffé ainsi. Et puis alors, on a laissé ensuite le gaz qui a été comprimé et qui s'était échauffé, on l'a laissé se refroidir, par contact avec le milieu ambiant.
Oui, l'air qui circulait autour de la machine. Autour.
Alors, on a ainsi un gaz qui a été d'abord comprimé et qui s'est échauffé, puis on a laissé perdre cette chaleur par refroidissement en contact avec le milieu ambiant. Et ensuite, on laisse le gaz se détendre et alors il se refroidit. Et alors, il se refroidit plus bas, à une température inférieure à celle du milieu ambiant. On a donc utilisé le procédé du contact que je citais tout à l'heure avec un corps plus froid, puisqu'on a échauffé le gaz par compression, puis laissé se refroidir par contact avec le milieu extérieur, et puis ensuite on l'a laissé se détendre.
Mais alors, est-ce qu'on peut liquéfier n'importe quoi avec ce procédé ?
Eh bien, on peut liquéfier pratiquement tous les gaz. On peut liquéfier même les gaz que l'on appelait autrefois permanents. C'est-à-dire qu'on ne savait pas les liquéfier par simple compression. Mais quand on les détend aussi, on refroidit par détente et on peut, par compression et détente, on finit par les liquéfier. L'azote, l'oxygène, l'hydrogène, ce qu'on appelait les gaz permanents. Naturellement, il faut comprimer et refroidir plus bas que la température ordinaire. Et alors, on utilise pour cela des mélanges réfrigérants. Des mélanges réfrigérants qui permettent d'abaisser la température au-dessous du zéro centigrade, de façon assez notable. Ces mélanges réfrigérants, d'ailleurs, il est intéressant de signaler qu'ils fonctionnent grâce à une transformation physique extrêmement instructive, celle qui consiste à ouvrir aux molécules d'un corps des possibilités de mouvement, c'est-à-dire ce qu'on appelle des degrés de liberté, qu'ils n'avaient pas auparavant. Or, l'énergie thermique, des mouvements thermiques disponibles, elle se répartit équitablement entre tous les mouvements possibles. Mouvements de vibration, de rotation, mouvements de déplacement. Y compris, alors, si vous introduisez de nouveaux mouvements possibles, la répartition se fait en y comprenant les nouveaux mouvements, de telle sorte qu'il y en a moins pour les anciens, et qu'au total, la température s'abaisse.
C'est ainsi qu'un corps qui était glacé et solide, lorsque vous le faites évaporer, qu'il devienne gazeux, par exemple, ou même liquide, il peut se déplacer plus qu'il ne pouvait avant.
Ainsi, oui, par exemple, prenons de la glace à 0 centigrade, elle contient des molécules dont l'agitation thermique est représentée par des vibrations du réseau cristallin. Mais il n'y a pas de mouvement, puisque les molécules sont maintenues dans les mailles du réseau. Ajoutons du sel. L'effet du sel, au contact de la glace, est de libérer les molécules d'eau, car le mélange d'eau et de sel n'est pas solide, mais liquide à la température de 0 degré centigrade. Donc les molécules deviennent plus libres. Chaque fois qu'une molécule d'eau se libère et se met en mouvement dans le liquide, quittant la glace, entre dans le liquide, elle exige une partie de l'énergie disponible. Elle pompe une partie de l'énergie disponible. Et par conséquent, elle diminue l'énergie qui restait affectée aux vibrations.
Et la température baisse.
Et naturellement, la température baisse. C'est de la même manière, d'ailleurs, que l'évaporation d'un liquide volatile abaisse la température, car les molécules qui sont sorties du liquide pour passer à l'état de vapeur ont des libertés plus grandes pour leur mouvement et elles enlèvent aux molécules qui sont restées dans le liquide toute l'énergie qui correspond.
Mais quelle performance peut-on obtenir avec toutes ces méthodes ? Jusqu'à quelle température peut-on descendre ?
Eh bien, on ne va pas très loin malheureusement. Les mélanges réfrigérants permettent d'atteindre moins 80 centigrades environ. C'est déjà pas mal. L'oxygène liquide, obtenu par la méthode de Claude, baisse jusqu'à 119 degrés. L'hydrogène, moins 252 pour se liquéfier. Enfin, l'hélium ne s'est liquéfié qu'à moins 269. Par conséquent, 4 degrés au-dessus du zéro absolu. Mais ces 4 degrés sont encore excessivement difficiles à obtenir, comme nous allons voir. Ils sont beaucoup plus difficiles à obtenir, ces 4 degrés, que les centaines de degrés qu'il a fallu obtenir déjà à baisser pour aller de 0 à moins 269 degrés.
Autrement dit, le degré n'a pas la même valeur selon sa
place. Absolument pas. Il devient de plus en plus difficile à obtenir. L'histoire de ces victoires successives, d'ailleurs, est très intéressante. Elle s'est répartie dans le monde entier. En Angleterre, avec Faraday et Dewar. La France était représentée par Lavoisier et plus tard par Claude. La Pologne avec Wroblewski. La Hollande avec Kamerling-Onnes et Kiesem. Et l'Allemagne avec Linde. Mais ces procédés de détente, de vaporisation, ne suffisent pas à partir du moment où les substances sont entièrement liquéfiées, ou même solidifiées, où il n'y a plus de tension de vapeur notable, parce que vous avez beau offrir aux molécules du corps de la place par le vide, elle ne la prend pas, il n'y a pas de tension de vapeur, le corps reste solide ou liquide, ne s'évapore pas, et alors il faut des méthodes plus complexes, plus subtiles, qui repose d'ailleurs tout de même sur la même idée fondamentale, c'est-à-dire qu'il s'agit d'offrir aux molécules du corps à refroidir de nouvelles possibilités de mouvement. Ça n'est pas du mouvement de déplacement comme tout à l'heure dans le gaz ou dans le liquide, mais ce sont des mouvements d'une autre nature qu'on leur offre de manière que l'énergie qui était répartie entre les possibilités précédentes se trouve privée d'un impôt nouveau qu'il a fallu payer pour égaliser avec les nouvelles possibilités, qu'on appelle les degrés de liberté.
Mais quels sont ces mouvements, justement, professeur ?
Mais alors, il s'agit de rechercher des modifications de conditions physiques que l'on puisse ouvrir ou fermer à volonté de un ou plusieurs degrés de liberté. Il s'agira d'ailleurs de mouvements de vibration ou de rotation. Puis il ne s'agit plus de mouvements de déplacement, puisque c'était le cas pour les liquides ou pour les gaz, mais maintenant que nous sommes dans le domaine des solides, nous ne pouvons plus penser à offrir aux molécules ou à atomes des degrés de liberté de mouvement, de déplacement. Un des dispositifs les plus efficaces consiste à bloquer les axes magnétiques des molécules. Ce sont des molécules qui possèdent un certain moment magnétique. Par un champ magnétique approprié, on peut les orienter dans une certaine direction, c'est-à-dire bloquer leurs axes magnétiques dans une certaine direction.
Un peu comme un aimant fixerait toutes les aiguilles de plusieurs boussoles.
C'est ça. Alors, on les empêche, en somme, de tourner, en les bloquant de cette manière. Et alors, on attend que le corps soit refroidi par contact avec des appareils qui permettent d'avoir le meilleur froid possible à ce moment-là. Par exemple, 4 degrés de l'hélium liquide, 4 degrés absolu. On a donc ainsi un cristal dont les atomes sont orientés et dont les vibrations intérieures correspondent à la température de 4 degrés absolu. Et puis alors, on coupe le champ magnétique. Alors les molécules sont libérées de cet esclavage qui les obligeait à regarder toutes dans la même direction. Et elles commencent à tourner, pour ces mouvements de rotation, elles empruntent l'énergie nécessaire aux autres mouvements, puisqu'elles n'ont pas d'autre procédé pour se mettre en mouvement que d'emprunter l'énergie aux mouvements de vibration qui n'étaient pas bloqués, c'est-à-dire celles qui étaient encore présentes lorsqu'elles étaient bloquées dans la direction du champ magnétique. Alors, il y a donc une diminution de la quote-part de chacun des degrés de liberté, puisqu'il y en a plus maintenant qu'il y en avait avant, et il y a un abaissement de la température. Bien entendu, cela ne peut pas aller jusqu'au repos absolu, puisqu'il faut toujours qu'il y ait quand même un preneur d'énergie, ici en l'espèce une énergie nouvelle, une liberté nouvelle. Alors, vous avez beau offrir des libertés nouvelles, vous privez d'une certaine partie de l'énergie les libertés anciennes, mais pas jusqu'à zéro. Vous ne pouvez pas arriver à l'immobilité totale. Actuellement, des opérations du même genre sont en cours avec des blocages, non pas d'atomes ou de molécules, mais de noyaux. En bloquant le noyau, qui possède un très petit moment magnétique, on peut réussir également à les orienter et puis ensuite à les libérer après que la température ait été baissée au maximum, et on obtient ainsi un nouvel abaissement de la température. Je dois vous dire tout de suite que, par des procédés de ce genre, on atteint bien moins de température que 1 degré absolu. Non seulement on atteint le millième ou le 10 millième, mais même le 100 millième. On est actuellement au 100 millième de degré absolu, au-dessus du zéro absolu. Mais chaque fois que l'on gagne une puissance de 10, c'est encore un effort nouveau. Vous disiez tout à l'heure que la valeur du degré est bien différente à cette partie de l'échelle thermique qu'elle ne l'est à nos températures ordinaires, mais même le millième de degré, ou le 10 millième ou le 100 millième de degré ont encore une valeur physique considérable et deviennent de plus en plus difficiles à enlever à ces corps aux basses températures.
Mais professeur, justement, à ce nouveau domaine de la physique, à ces basses températures, est-ce qu'il y a une nouvelle physique? Et comment peut-on mesurer ces 10 millièmes, ces millièmes de degrés dont vous parlez?
Eh bien, la mesure d'une température dépend bien entendu essentiellement des modifications de l'état physique de ce corps. Par exemple, de sa conductivité électrique. On sait que les corps deviennent plus conducteurs lorsque la température s'abaisse, les métaux en particulier, et ceci de façon suffisamment régulière pour certains métaux pour que l'on puisse baser sur cet abaissement de résistance électrique une thermométrie, par résistance. Les mesures électriques étant les plus précises et les plus commodes pour le physicien, c'est un moyen idéal en réalité. Mais pourtant, aux environs de l'absolu, puisque nous approchons du zéro absolu, même cette méthode cesse d'être applicable, elle devient irrégulière, et d'ailleurs les résistances tombent à zéro, comme nous allons le dire dans un instant.
Mais professeur, est-ce que tous les métaux peuvent avoir cette supraconductivité ?
Bien, on pense que finalement tous les métaux passeront par l'état supraconducteur. Il a été observé tout d'abord au-dessous de 4 degrés absolus par Kamerlingh-Onnes en Hollande, car le plomb dont il se servait à ce moment-là pour faire des mesures de résistance a montré tout d'un coup une résistance nulle. Il ne pouvait plus servir pour mesurer la température puisque tout d'un coup sa résistance qui baissait lentement au fur et à mesure de l'abaissement de la température s'est décrochée soudain et est tombée à zéro.
C'est-à-dire que le courant passait sans aucun frottement.
Il n'y a plus de résistance.
Aucune chaleur.
Oui, les électrons passent librement et par conséquent, il n'y a plus de mesure possible. Naturellement, en même temps que les électrons ne rencontrent pas de résistance, ils ne chauffent pas le conducteur. Et alors, on peut lancer le courant dans une spire de plomb, par exemple rendue ainsi supraconductrice, et le laisser tourner pendant des jours, pendant des semaines, sans qu'il s'arrête.
Sans qu'il s'arrête.
Certains alliages ont été découverts récemment qui deviennent supraconducteurs à des températures plus faciles d'accès que les 4 degrés absolus. Et on vend maintenant dans le commerce des électroaimants supraconducteurs, naturellement il faut les refroidir, mais pas jusqu'à 4 degrés absolus. Ces électroaimants permettent d'obtenir des champs magnétiques très élevés sans exiger une alimentation permanente, puisqu'on lance le courant et on le laisse simplement tourner. La température auquel apparaît la supraconductivité varie assez largement. Le niobium, par exemple, est déjà supraconducteur à 9,2 degrés. C'est-à-dire une température relativement élevée par rapport à l'hélium liquide.
C'est un peu plus haut que l'hydrogène solide.
Mais il y a d'autres, par exemple, certains alliages qui exigent encore moins, par exemple 23 degrés absolus dans certains alliages. Par contre, le hafnium demande que l'on tombe à 0,35 degrés absolus. La supraconductivité est encore incomplètement expliquée, mais c'est en tout cas un phénomène quantique, cela nous pouvons le dire. Et le déplacement des électrons dans le métal ne peut pas être assimilé à un simple mouvement comme un fleuve, un simple courant, qui rencontre des obstacles ou qui n'en rencontre pas sur son passage. On a constaté beaucoup d'autres particularités des supraconducteurs, comme leur sensibilité au champ magnétique et le rôle de la couche superficielle du métal. C'est plutôt sur la surface du métal que le courant se déplace. Des progrès très importants ont été faits récemment et on espère pouvoir créer des champs magnétiques très puissants par la méthode des supraconducteurs. On en parle même pour réaliser les grands électroaimants circulaires des accélérateurs géants, du type de super-CERN, si vous voulez, sera peut-être avec un aimant supraconducteur. L'application la plus étonnante pourrait être celle qui a été proposée par un ingénieur français, consistant à stocker de l'énergie sous forme d'un courant électrique à très haute intensité, circulant dans une très grosse spire de matériaux supraconducteurs. Naturellement, on peut faire passer des milliers et des milliers d'ampères dans une telle spire, puisqu'il n'y a pas de résistance et il n'y a pas d'échauffement. On pourrait ainsi stocker une quantité d'énergie considérable. L'énergie stockée, d'ailleurs, serait plutôt dans le champ magnétique produit par ce courant. Et on sait que l'énergie contenue dans les champs magnétiques qui règnent dans les galaxies est immense, et le mode de stockage par cette grosse spire serait en réalité une imitation en petit du stockage d'énergie qui se produit dans les espaces cosmiques.
C'est-à-dire qu'il n'est pas question de brancher deux fils sur la spire, au contraire, on ferait tourner un alternateur à partir du champ magnétique émis par le courant qui tourne dans cette spire.
C'est ça, et alors naturellement, on consommerait progressivement le champ magnétique et le courant de la spire. Ce qui se passe à très basse température dans un liquide comme l'hélium-2 ressemble beaucoup à ce qui se passe dans un supraconducteur, sauf que là, il s'agit de mouvements de rotation, de tourbillons, alors que tout à l'heure, c'était des mouvements d'électrons.
Autrement dit, les atomes arrivent à cette supraconductivité aussi, comme les électrons tout à l'heure.
Une sorte de supraconductivité, mais dans les mouvements. L'hélium-2, c'est-à-dire l'hélium abaissé à 2,19 degrés absolus, perd tout d'un coup toute viscosité, toute tension de vapeur, et sa conductivité thermique devient énorme. La chaleur spécifique passe de la valeur 3 à la valeur 1, soudainement, lors du passage à cette température critique de 2,19 degrés. Et ceci sur une marge de 2 millièmes de degré. C'est extrêmement brusque. L'hélium 2, qui est la forme de l'hélium qui existe au-dessous de cette température, l'hélium 1 étant la forme de l'hélium liquide au-dessus de cette température, ces deux corps n'ont, on peut dire, rien de commun, sauf la composition chimique. L'hélium 1 est mauvais conducteur de la chaleur. Aussi, dans les expériences de mesure de la capacité calorifique, il faut attendre quelque temps, chaque fois que l'on a un peu échauffé cet hélium, qu'on introduit un peu de chaleur, il faut attendre que par une résistance électrique par exemple, il faut attendre que la température s'égalise. Mais s'il s'agit de l'hélium 2, la température s'égalise instantanément. Le corps conduit la chaleur 1000 fois mieux que le cuivre rouge et 100 millions de fois mieux que l'hélium 1.
Mais c'est vraiment en fait, plus la même chose.
Oui, la chaleur se propage à des dizaines de mètres par seconde, presque comme le son. C'est vraiment un corps d'une qualité physique tout à fait extraordinaire. Un autre caractère physique complètement transformé est la viscosité, qui tombe pour l'hélium 2 pratiquement à zéro. Les effets de cette viscosité presque nulle sont d'ailleurs tout à fait spectaculaires. Ils passent instantanément à travers les pores les plus petits. On ne peut pas le conserver dans des vases ouverts parce qu'il grimpe le long des parois et se siphonne lui-même rapidement à l'extérieur. La couche qui recouvre les parois solides, ainsi trempées par l'hélium 2, est d'une centaine d'atomes d'épaisseur, c'est-à-dire elle n'est pas épaisse, mais la viscosité est si faible que cette couche glisse rapidement et permet l'écoulement du liquide. L'état physique de l'hélium 2 a donné lieu à de très nombreuses tentatives d'explications théoriques. Mais en fait, ce qui est certain, c'est que c'est un liquide ordonné. Car lorsqu'il se solidifie, il le fait sans échange thermique, en passant du liquide au cristal. Alors, comme on sait que le cristal est ordonné, il est donc probable que le liquide est lui-même ordonné. De plus, il s'agit d'un liquide quantique, c'est-à-dire que non seulement les atomes sont dans des états quantifiés, ce qui est le cas pour tous les atomes, mais le liquide lui-même, dans sa masse, ne peut prendre que des états dynamiques quantifiés.
Mais professeur, en dehors de l'hélium 2, est-ce qu'il existe d'autres formes qui prennent cette nouvelle propriété avec le très grand froid?
Eh bien, les conquêtes de la physique et la chimie dans les basses températures dépassent naturellement les supraconducteurs et l'hélium 2. Par exemple, en chimie, les vitesses de réaction sont tellement faibles que l'on peut mettre en contact l'acide sulfurique et la soude caustique sans qu'ils se produisent aucun effet. Aussitôt qu'on les réchauffe, le mélange explose. Il explose à moins 80 parce que tout d'un coup, la réaction se produit. Les métaux alcalins, le sodium, le potassium, peuvent être plongés dans l'air liquide sans qu'ils se produisent de réaction. Alors que vous savez qu'à l'air, ils s'oxydent extrêmement rapidement et dans l'eau, ils brûlent. Mais peut-être le plus intéressant, c'est que cette baisse de vitesse de réaction permet de conserver et d'étudier des molécules qui sont extrêmement réactives à des températures comme la température ordinaire.
Les radicaux libres, par exemple.
Eh bien voilà, les fameux radicaux libres. C'est-à-dire des groupements d'atomes normalement liés par une ou plusieurs valences à d'autres groupements pour former des molécules stables. Par exemple, le radical méthyl, CH3, que l'on rencontre dans une quantité de molécules organiques, mais toujours liées à d'autres, c'est cela. Eh bien, il peut exister tout seul, libre. Ou bien les atomes d'azote ou d'oxygène isolés, alors que dans les gaz à température ordinaire, comme dans l'air,
ils sont toujours, ou O2.
C'est ça, ils sont réunis par paires. Pour créer ces radicaux libres, on peut se servir de la décharge électrique, qui rompt beaucoup de liens intramoléculaires. Mais en plaçant une paroi refroidie à quelques degrés absolus au voisinage du gaz, qu'on a attaqué ainsi par la décharge, sur la paroi, le produit congelé contient des radicaux libres. Ils ont été créés par la décharge, ils ont été bloqués dans leur état de radicaux libres par le froid de la paroi, ils sont prisonniers et ils sont restés inactifs. Les activités chimiques ne reprennent qu'au-dessus de la température de l'hydrogène liquide, et à ce moment-là, la chimie ordinaire, si vous voulez, recommence. Nous examinerons une autre fois cette chimie des radicaux libres, n'est-ce pas ? Et nous verrons que l'on peut aussi les conserver au sein d'un solide, qui joue un peu le rôle du blocage par une paroi froide.
Comme la paraffine pour la dynamite.
Oui, parce que ça freine les déplacements moléculaires. Et alors, elle empêche les rencontres actives entre radicaux libres qui ne se recombinent pas. Signalons d'ailleurs en passant que la biologie commence à profiter des domaines ouverts par les basses températures. On a montré que la vie pouvait être arrêtée à des températures très basses sans que les structures soient altérées. Autrement dit que lorsque les corps vivants que l'on a brusquement refroidis à température très basse, qui sont donc, on peut dire, morts, puisqu'ils ne vivent plus, il n'y a plus aucune réaction de la vie, quand on les réchauffe et qu'elles retrouvent le domaine normal de température, la vie recommence, la vie repart. C'est la preuve que la structure intime n'a pas été altérée. Ce blocage non destructif des fonctions vitales promet d'être un puissant moyen d'analyse de la vie et d'analyse de la structure de la matière vivante. Jusqu'où pourrait-on aller dans cette approche du zéro absolu ? Actuellement, je vous l'ai dit, il s'agit du 100 millième ou du millionième de degré. Chaque facteur de 10 coûte de grands efforts et apporte naturellement aussi quelques nouveautés. C'est en somme un domaine encore ouvert de la physique et, remarquons-le, un domaine qui n'est pas représenté dans la nature. Contrairement à celui des hautes températures, du vide extrême ou des hautes pressions, ces domaines-là sont représentés dans la nature, alors que le froid extrême ne l'est pas. Il y a donc chez les physiciens quelque chose, on peut réaliser dans les laboratoires, quelque chose que la nature n'a pas su faire. Nous battons la nature dans ces conditions.
Le professeur Auger vient de vous exposer le problème des basses températures.
C'était un numéro des Grandes Avenues de la Science Moderne consacré aux basses températures, avec Pierre Auger et présenté par Georges Svetlovski. Première diffusion le 3 juin 1970.